et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Julie!
Salut Darina!
Comment tu vas?
Bah super, et toi?
Bah ouais, écoute, nickel, vendredi ensoleillé, donc rien à dire de plus.
C'est ça.
Bon bah en tout cas, je suis ravie de te recevoir sur Amcamgram. Toi, tu travailles depuis plus de 3 ans chez Doctolib, le leader européen de la e-santé, et aussi sacré numéro 1 du top 10 des startups qui font rêver les candidats par un cabinet de recrutement digital qui s'appelle ReadMind. Donc, bravo. <C'est
trop rire> Écoute, je suis trop contente que tu m'aies invitée. Ravie de pouvoir participer à mon premier podcast. J'adore les podcasts, donc c'était vraiment un honneur que tu m'invites.
Alors toi, tu as un super parcours puisque tu es entrée chez Doctolib tout d'abord en tant que chargée de relations clients et partenaires. Ensuite, tu es passée par la case chef de projet pour développer le télésecrétariat. Et il y a maintenant 1 an, tu as pris le poste de Key Account Manager. Donc, super parcours, j'ai hâte que tu nous en parles. Mais avant de commencer, Julie, peux-tu me dire quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Ah yes, mon plat préféré, je pense que c'est les pâtes à la truffe. J'adore ça, ou en tout cas en général les pâtes. Mais petite préf pour les pâtes à la truffe.
Trop bien. Alors, à présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Merci. Alors, merci pour ta présentation. Du coup, je m'appelle Julie, j'ai 26 ans. Comme tu l'as dit, après mon école de commerce à Grenoble, je suis rentrée directement chez Doctolib. En fait, c'était ma première expérience. Je suis rentrée en stage de fin d'études. Donc, l'expérience dont tu parlais, chargée de relations partenaires et clients, c'était mon stage. Et du coup, je suis rentrée dans l'équipe qui gérait les partenariats chez Doctolib. Donc, ce sont les télésecrétariats. C'est quand tu as un médecin, peu importe si c'est un médecin ou un ostéo ou un kiné, peu importe, ils décident de dévier leurs appels vers une plateforme qui prend les appels pour eux quand ils n'ont pas forcément de secrétaire ou que du coup ils préfèrent favoriser le temps de leur secrétaire ou de leur assistant pour les aider dans leurs tâches médicales. Et en fait, bah, du coup, ces télésecrétariats prennent les rendez-vous de ces médecins sur l'agenda. Et donc, du coup, bah, s'ils ne veulent pas utiliser Doctolib, ça pouvait être un vrai frein à la vente. Et voilà, et du coup, notre objectif dans cette équipe, c'était bah, de les rendre partenaires, qu'ils soient d'accord pour utiliser Doctolib et que nous, on puisse bah, du coup transformer nos médecins en clients chez Doctolib. Et en fait, donc du coup, je suis rentrée en stage de fin d'études et je suis restée dans cette équipe en fait pour déployer une nouvelle stratégie permettait de les targeter en tant que clients pour les en fait qu'ils utilisent que Doctolib comme outil et que nous, du coup, on aille former leur listing client de médecins. Et du coup, j'étais chef de projet sur cette partie-là, donc mise en place de tous les outils et le fonctionnement du projet, mais aussi je faisais de l'account management une fois qu'ils étaient complètement déployés sur Doctolib et uniquement utilisateurs de l'outil pour continuer de faire en sorte que notre partenariat soit un succès. Et donc du coup, bah, au bout de 2 ans en fait de cette mission, j'ai eu envie de continuer sur la partie account management avec bah, du coup des clients un peu plus stratégiques, un peu plus gros, et donc passer dans l'équipe grand compte chez Doctolib et notamment sur la partie hôpital parce que quand j'étais dans l'équité secrétariat, donc du coup mes contacts c'était ces gérants de ces PME et j'avais très peu de contacts avec les médecins et du coup je touchais un peu moins vraiment à la mission, on va dire, cœur de Doctolib qui est de rendre accessibles les soins aux Français. Et du coup, j'avais vraiment envie de mettre les pieds dans les hôpitaux, de voir comment ils étaient organisés, de voir comment Doctolib pouvait s'adapter à leur organisation pour que toi, Darina, tu puisses prendre rendez-vous avec un médecin à l'hôpital et parfois, c'est pas très clair comment ça se passe. Et donc, comment Doctolib peut aider dans les hôpitaux à ce que leur offre de soins soit plus claire et plus accessible. Donc, c'est pour ça que du coup, au bout de 2 ans, je suis passée en équipe grand compte. Et du coup, là, ça fait 1 an que je suis dans cette équipe-là et je gère comme portefeuille, en fait, les hôpitaux de l'APHP, qui sont du coup clients de Doctolib.
Ah
Voilà.
oui, bon, on entend beaucoup parler de la PHP, surtout en ce moment.
Exactement,
Donc, tu vas nous en
ouais.
reparler. Juste avant, je voulais savoir, parce que toi, c'est vrai que tu es un bébé Doctolib, en fait. Tu es né dans l'entreprise et puis tu y as grandi. Au moment où tu cherchais ton stage, c'était déjà connu à ce point-là ou pas?
Alors, à vrai dire, pour te dire la petite histoire sur pourquoi j'ai postulé chez Doctolib, c'est parce que ma mère est médecin généraliste et qu'elle a été contactée par un de nos commerciaux et elle m'a parlé de Doctolib en me disant, oh, ça a l'air cool et tout. Voilà. Et du coup, je me suis intéressée à Doctolib comme ça. Et après, évidemment, du coup, en m'y intéressant, je me suis rendu compte que c'était un super projet, que c'était une super boîte qui était en train de monter et qu'il y avait plein de potentiel. Et donc, voilà, j'ai été hyper attirée par la mission. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était en fait quand je suis arrivée, on était 300. Maintenant, on est 1500, je crois même plus, puisque ça bouge tous les mois. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus du tout la même ambiance. Et pour le coup, quand je suis arrivée, on était quand même déjà plus, on va dire, une start-up. Enfin voilà, il y avait quand même déjà plus de 300 personnes, donc ça pouvait arriver de croiser des gens dans les couloirs que tu connais pas. Mais globalement, c'était bien pas du tout pareil que maintenant.
Ah
Voilà.
oui, ok, je pensais que tu l'avais rejoint plus early stage que ça, mais ok, ouais, ça va tellement vite.
Ouais, non, bah, je suis arrivée en 2017 et la boîte a été créée toute fin 2013. Donc tu vois, il y avait quand même déjà eu des gens avant moi.
Bah écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et commencer peut-être par me décrire comment vous êtes structuré, vous, dans le département business chez Doctolib.
Ouais, alors donc du coup, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on va dire qu'il y a deux types de clients chez Doctolib. Je synthétise en disant médecin, mais c'est plutôt professionnel de santé qui est en libéral. Donc c'est le professionnel de santé qui va choisir le praticien, qui va choisir son logiciel, son organisation, comment il va fonctionner. Et tu as les professionnels de santé qui sont en salarié, donc qui travaillent soit dans un centre de santé, une clinique, un hôpital, voilà. Et du coup, ils ont des équipes de management qui vont leur fournir un peu leurs outils, leurs logiciel. Et donc du coup on va pas adresser ces praticiens de la même façon. Donc tous ceux qui sont en libéral vont être formés, voilà, on a des commerciaux qui sont spécifiquement pour eux. Donc du coup il y a des commerciaux sur le terrain et des commerciaux inside sales. Et derrière, du coup, une fois qu'ils sont formés par nos commerciaux, il y a une équipe d'onboarding qui finit de les installer sur Doctolib. Et puis derrière, s'ils ont des questions, on a notre équipe de customer care qui est à leur disposition. Ils peuvent appeler ou envoyer des mails à notre support. Et il n'y a pas d'account management dédié pour ces praticiens-là parce que bon, ils sont tout seuls. Potentiellement, ils n'ont pas des problématiques très compliquées à gérer. Et par contre, du coup, d'un autre côté, tu as donc les praticiens salariés. Et ceux-là, en fait, c'est ceux qui vont être approchés par l'équipe grand compte. Et du coup, dans l'équipe grand compte, il y a trois grandes équipes. Tu as les commerciaux, du coup, qui vont répondre à des appels d'offres d'hôpitaux, aller contacter des gérants de centres, de cliniques, etc., pour du coup bah, les convaincre en fait de déployer Doctolib dans leur structure et que ce soit l'outil global utilisé par leurs médecins dans la structure. Et puis ensuite, donc une fois que les contrats sont OK et qu'ils ont été signés, tu as une équipe de consultants de déploiement qui vont aller sur place dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour former les médecins, former les équipes aussi DSI, qui vont ensuite du coup vraiment s'approprier Doctolib comme leur outil de travail du quotidien. Et une fois que du coup dans l'hôpital ou dans le centre, ils ont été totalement utilisateurs de Doctolib, ils passent dans l'équipe qui est account manager, qui donc du coup est mon équipe. Et dans notre équipe, du coup, on a deux équipes. On a l'équipe qui s'occupe que des hôpitaux et l'équipe qui s'occupe plutôt de tous les autres comptes. Donc, ça va être les cliniques, les centres de santé, les très gros cabinets, maisons de santé qui sont gérés par un manager, enfin, qui sont gérés par le haut, on dit. Ensuite, au sein de ces comptes, tu as aussi une segmentation en fonction de la taille du compte que ça représente en termes de MRR chez nous et en termes de maturation, qui vont pas forcément nécessiter autant de sortants de notre côté ou d'organisation de comités de pilotage tous les ans pour bah, revoir un peu les performances, quels sont les projets qu'on peut mettre en place ensemble. Ouais, ça va aussi driver un peu le temps qu'on y passe et enfin, l'implication qu'on a avec ces comptes-là. Mais voilà, globalement, comment c'est structuré, tu as deux grandes équipes et au sein de l'équipe grand compte, tu as trois équipes, dont la mienne.
Ok, ouais, très très clair. Bah, c'est bien structuré chez vous, hein, punaise. Ça se voit que ça a été bien
Ouais,
réfléchi,
ça s'est structuré au fur et à mesure, clairement.
Et alors, tu disais que les praticiens salariés, c'est eux qui font partie de l'équipe Grand Compte, c'est ça?
Exactement, ouais. En fait, nous, du coup, ça va être nos interlocuteurs vont plutôt être les DSI, donc les directeurs de systèmes d'information informatique au sein des hôpitaux ou des cliniques, en fait, qui vont, tu vois, qui gèrent tous les logiciels qu'ils utilisent en interne. Et donc, Doctolib va faire partie d'un de leurs outils. Et on va aussi avoir des chefs de projet, souvent, qui sont nommés en interne pour justement chapeauter toute la partie mise en place de Doctolib, amélioration continue de l'outil, continuer d'aller voir les services ou les médecins qui ont des questions, qui, voilà. Et du coup, nous, ça va plutôt être ces interlocuteurs-là avec lesquels on travaille au quotidien plutôt que les praticiens, puisqu'en fait les praticiens sont plutôt censés passer en interne chez eux pour faire remonter leurs problématiques, et normalement déjà en interne nos interlocuteurs sont censés pouvoir leur répondre, et du coup s'ils ont besoin d'aide de notre part, ils nous contactent nous. Voilà, c'est plutôt eux, enfin nous on est plutôt ouais, sur ce type d'interlocuteur plutôt que enfin d'avoir les médecins en direct. Après, ça m'arrive évidemment d'aller sur le terrain et de faire des rendez-vous avec des chefs de service par exemple, quand soit ils sont pas du tout utilisateurs de Doctolib encore, c'était un service qu'on avait laissé un peu de côté au moment du déploiement, ou que tous les médecins du service ne sont pas sur Doctolib et que du coup on a identifié une opportunité de déployer plus sur place. Et donc du coup on va sur enfin moi j'y vais, je rencontre le chef de service avec les équipes évidemment en interne de l'hôpital, pour repitcher Doctolib, pour voir comment on peut l'adapter à leurs besoins, et voilà. Mais du coup globalement c'est que dans ces moments-là où je suis vraiment en contact direct avec les médecins.
Ok, ouais, très très clair. Julie, tu as 26 ans, tu cours très vite. Moi, je n'ai pas réussi à te suivre, alors je vais te redemander quelques petites questions. Tout ce que tu as dit est très clair, mais tu es en sprint, alors moi, je
Ah, je
suis là
suis désolée de parler trop vite.
d'encourager les coureurs, mais je suis un peu sur le bord de la route. Juste pour préciser ce que tu dis. Donc là, on a bien compris la structure de l'équipe avec à la fois des inside sales et des business developers qui vont signer les partenariats avec les établissements de santé ou les praticiens ou les indépendants. Et ensuite, ils vont être pris en charge. Donc si je comprends bien, les praticiens libéraux, eux, ils vont être onboardés, mais après, vous allez les laisser un petit peu vivre leur vie. Et par contre, tous les praticiens salariés, c'est eux que vous allez plutôt prendre en charge dans le cadre de la mission d'account management. Et les deux objectifs principaux dont tu m'as parlé, c'était faire en sorte qu'il y ait plus de services qui utilisent Doctolib au sein d'un même établissement. Et est-ce qu'il y a aussi des fonctionnalités en plus qu'on peut qualifier d'upsell?
Alors oui, du coup, après ça c'est au global sur tout Doctolib, en fait même les libéraux ou les services, enfin les hôpitaux peuvent en bénéficier. On a la téléconsultation qu'on a sortie, donc du coup ça c'est un outil en fait, enfin c'est plutôt, oui c'est considéré comme un upsell puisqu'en fait il faut d'abord avoir la base Doctolib pour pouvoir activer la téléconsultation, et donc du coup ça va être quelque chose qu'on va facturer en plus que enfin voilà que l'utilisation enfin basique de Doctolib, et du coup bah évidemment ça a été un outil qui a été déployé en masse pendant la crise Covid, notamment les hôpitaux et n'étaient pas encore utilisateurs de la téléconsultation jusqu'à maintenant parce que on était au début en fait, du coup on proposait qu'aux libéraux parce qu'ils avaient une organisation plus simple et du coup plus facile à gérer en one to one, une personne chez nous forme un médecin pour que voilà qu'il sache utiliser la téléconsultation. Mais du coup, pendant la crise, évidemment, on a plein de nos clients qui nous ont contactés, cliniques, hôpitaux, pour nous demander s'ils pouvaient en bénéficier. Et donc, évidemment, on a déployé l'offre. Et en fait, la téléconsultation pendant la crise Covid, on l'a rendue gratuite. Donc, justement, pour voilà, faire un peu notre effort aussi pendant la crise pour aider nos médecins à combattre le Covid, on va dire, en tout cas, à mieux s'organiser. Et donc, du coup, ça, c'était gratuit jusqu'à récemment, jusqu'à cet été, je crois. Et du coup, on a recommencé à facturer depuis. Et voilà. Et du coup, ça, c'est une offre qu'on a proposée en plus, du coup, à nos clients existants.
Le portefeuille géré par les Key Account Managers, ça représente combien d'établissements?
Alors, on va dire qu'environ dans l'équipe qui gère les hôpitaux, ça va être entre 20 et 25 hôpitaux. Moi, je gère la PHP, et la PHP, c'est 31 hôpitaux qui sont utilisateurs de Doctolib, mais on est deux sur le projet. Du coup, on est deux CAM, vraiment, on travaille ensemble sur que la PHP. Mais du coup, les autres ont environ, ouais, c'est ça, une vingtaine d'hôpitaux.
Alors, on va rentrer dans le cas particulier de l'APHP, parce que je sens un gros morceau, ça aussi. Est-ce que tu peux peut-être me décrire ton quotidien de CAM en face de l'APHP?
Ouais, bah du coup, donc comme tu me demandais, en fait, à la différence de du coup mes collègues dans l'équipe, mon portefeuille en fait est géré par le même siège. Du coup, enfin, on va dire qu'on a un contrat au global, mais avec 31 hôpitaux, donc c'est beaucoup de travail au quotidien, plutôt on va dire opérationnel sur vraiment apporter du soutien aux équipes qui sont sur place dans les DSI justement pour les aider à continuer à déployer Doctolib. Et donc en gros concrètement comment je structure mes journées et ma charge de travail, en fait on va avoir des comités de pilotage qu'on a à peu près tous les 6 mois avec le siège de la PHP, où là ça va être vraiment on reprend les stats, la performance globale de la prise de rendez-vous en ligne sur tout la PHP et tous les sites qu'on a déployés, et identifier des projets qu'on pourrait mener sur vraiment tout l'ensemble du portefeuille. Ensuite, on a des calls toutes les 2 semaines avec ces équipes sièges, vraiment pour plus rentrer dans l'opérationnel quand on a des blocages potentiellement sur le terrain pour faire avancer des projets. Du coup, voilà, on a notre chef de projet siège qui va nous aider à faire porter nos messages. Et puis ensuite, moi, du coup, dans mon quotidien, ça va être vraiment être en soutien des équipes locales dans chaque hôpital. Donc, en fait, j'ai des interlocuteurs dans chacun des 31 hôpitaux. Et en fait, je travaille avec des ingénieurs en organisation qui, eux, en fait, leur objectif, c'est vraiment de digitaliser l'hôpital, de simplifier les processus qu'il y a en interne. Par exemple, mettre du zéro papier, enfin voilà, simplifier la vie des médecins, des services, réorganiser les secrétariats. Et donc Doctolib, évidemment, ça fait partie un peu de toute cette volonté d'innovation et de se moderniser à l'hôpital. Donc ça va être mes interlocuteurs plutôt projet sur les hôpitaux. Et puis ensuite, je travaille avec les services informatiques de chaque hôpital quand il faut rentrer dans le détail de mettre en ligne un agenda, ou quand il y a un nouveau médecin qui arrive dans un service, lui activer Doctolib, etc. Donc ça, c'est plutôt du relais vraiment quotidien, opérationnel, pour les aider, répondre à leurs questions quand ils ont un blocage ou quand il y a un bug, voilà. Et après, du coup, bah, ça va être en interne relayer aussi les demandes d'évolution qu'ils peuvent avoir, parce qu'évidemment, Doctolib, c'est pas encore parfait. Il y a plein de choses qu'on continue d'améliorer. Et donc, à l'hôpital en particulier, on a plein de problématiques d'orientation patient. Tu vois, l'objectif à l'hôpital, évidemment, c'est que ben, les bons patients prennent les bons rendez-vous, parce que surtout à la PHP, quand on parle enfin, comme tu le vois à la télé en ce moment, ce sont en général des professeurs très spécialisés dans un domaine. Et donc, nous, c'est important aussi que ce soit les bons patients qui ont le bon dossier, qui puissent prendre rendez-vous avec ces médecins, parce qu'en fait, ils vont pas pouvoir traiter une pathologie de la spécialité, parce qu'ils ne sont pas spécialisés dedans. Et donc voilà, ça va faire perdre du temps à tout le monde s'ils ne sont pas bien orientés, les patients. Et du coup, il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer sur Doctolib pour éviter ces pertes d'infos, et que ce ne soit pas les bons patients qui prennent rendez-vous avec les bons médecins. Et donc voilà, du coup, moi, je prends aussi les retours terrain, je les remonte à l'équipe produit. On essaye de faire passer nos évolutions, mais chez Doctolib, ce n'est pas toujours facile. Et voilà, et puis du coup, moi, je suis beaucoup en contact aussi avec le support, qui est enfin le customer care chez nous, parce que nos équipes DSI passent beaucoup par eux quand ils ont des problèmes de bug, ou qu'ils ont des questions, et moi, ils passent par moi quand ça, c'est plutôt des sujets de projet ou des services au global sur lesquels il y a des soucis, et du coup, potentiellement, ça peut nécessiter d'aller les retourner les voir sur le terrain en rendez-vous, des choses comme ça.
J'allais justement te poser la question sur l'interaction que tu pouvais avoir avec les autres départements en interne chez Doctolib, puisque potentiellement tous les sujets de bugs, voilà, c'est pas forcément de ton ressort, quoi, la partie très technique. Donc là, j'ai bien noté que c'était l'équipe Customer Care qui prenait le relais.
Tout à fait.
Tu vas aussi aider tes partenaires dans leur marketing et comment ça se passe?
Alors, leur marketing, moi, je vais plutôt juste avoir un rôle de consultant, on va dire, en tout cas les conseillers, sur ce qu'ils peuvent mettre sur Doctolib. Et justement, quand je te disais, notre objectif, c'est aussi que ce soit les bons patients qui prennent les bons rendez-vous. C'est vraiment que du coup, l'offre qu'ils mettent en ligne sur Doctolib.fr, ce soit la plus claire pour les patients. Et que, par exemple, je mette les bons mots-clés sur les bons agendas, tu vois, par exemple, pour qu'un patient qui cherche, je sais pas, une première consultation en diabétologie, bah, il tombe bien sur le bon service qui va bien pouvoir lui proposer ce rendez-vous. Et du coup, ça va être plutôt le marketing via Doctolib, en tout cas via le produit.
Parce que toi, concrètement, tes KPI, ça va être quoi?
Alors, mes KPI, du coup, ça va être bah, la satisfaction. On a le NPS, évidemment, qu'on moniteur. NPS qu'on essaye d'avoir à la fois de la part des médecins pour aussi, enfin, qu'on ait un peu une vision de comment ils perçoivent Doctolib et est-ce qu'ils sont satisfaits de l'outil. Et aussi, satisfaction de nos interlocuteurs du quotidien, du coup, les DSI, les ingénieurs, etc. Je vais avoir aussi comme KPI, en fait, l'offre en ligne qui est proposée. Donc, si tu veux, moi, je suis objectivée sur le nombre d'agendas qui sont réservables en ligne sur Doctolib, donc le nombre de médecins qui ont activé Doctolib. Et plus cette offre, elle est exhaustive, mieux ça va être pour les patients, pour comprendre, en gros, qui sont les médecins de chaque service, qui sont les médecins dans chaque hôpital. Et du coup, je suis objectivée bah, sur garder un seuil d'agenda en ligne, toujours le même, qui va pas diminuer et surtout bah, qui va augmenter. Et du coup, nous, on va considérer ça comme une upsell de continuer d'aller mettre de nouveaux médecins en ligne sur Doctolib et d'augmenter notre offre. Et puis, du coup, on va regarder évidemment le MRR que ça génère chez nous. Et du coup, bah, évidemment, on va regarder ça en net de churn. Après, sur la PHP, moi, je suis pas objectivée sur le churn puisque si ça churn, c'est au global de la PHP, donc on n'y est pas encore, mais en tout cas on regarde le nombre d'agendas qui sont en ligne, et du coup il y en a qui s'enlèvent tous les mois parce qu'il y a des praticiens qui partent, il y en a qui sont plus satisfaits des patients qui arrivent via Doctolib, donc du coup mon objectif c'est de les convaincre de rester et surtout d'en mettre de nouveaux.
Ouais, j'avais connu ça un petit peu aussi avec ce qu'ils appelaient les clients la fourchette. Pas forcément les clients les plus sympathiques, donc ouais, je comprends un peu l'état d'esprit. Et c'est intéressant que tu aies parlé du churn parce que je voulais rebondir là-dessus. Alors effectivement, la PHP, comme tu l'as dit, c'est un cas un peu particulier, mais quand je vois le nombre de personnes et de ressources qui sont impliquées, comme là, voilà, la DSI, les chefs de service, enfin tout le monde est organisé autour de Doctolib. Donc je me dis qu'une fois que vous êtes implanté chez eux et que vous avez réussi à révolutionner un peu leur organisation, leur faciliter la tâche, un fort taux d'engagement et puis le churn chez vous doit être assez faible.
Oui, bah alors du coup, c'est vrai que sur la partie hôpital, c'est une vraie, enfin tu vois, en général, ça passe toujours par une appel d'offres, par une volonté de se moderniser, de donner comme service aux patients de pouvoir prendre rendez-vous en ligne, etc. Et donc du coup, enfin tu vois, c'est une vraie volonté de se moderniser. Et ensuite, nous, on a toute une équipe de déploiement, qui sont en mode projet, qui sont là pour aller former toutes les équipes et déployer Doctolib. Mais c'est vrai que du coup, en termes d'investissement en interne, c'est énorme. Et donc oui, en effet, la rétention, elle est entre guillemets plus facile au global. Après, comme je te disais, du coup. Les hôpitaux, ils ont aussi totalement intérêt à aller dans le sens des médecins et du coup, il y a des médecins qui sont pas toujours satisfaits de l'offre qu'on a nous Doctolib et donc du coup, qui vont plus vouloir l'utiliser eux pour eux ou pour leur service. Et donc ça va plutôt être ça notre enjeu entre guillemets de churn, c'est d'éviter qu'il y ait des services qui arrêtent d'utiliser Doctolib ou des médecins qui arrêtent de l'utiliser parce que ben du coup, ça veut dire qu'ils sont pas satisfaits du produit et du coup, ben nous derrière les chefs de projet et la direction des hôpitaux quand ça leur remonte, forcément, ils veulent pas que. Enfin voilà, ils veulent diminuer au maximum l'insatisfaction en interne. Après, ça c'est pour l'équipe hôpital sur le churn. Évidemment, on a un taux de satisfaction qui est quand même assez élevé chez Doctolib et ça c'est top et c'est une vraie volonté d'être customer centric. C'est pour ça qu'on a une équipe support qui est, enfin le customer care qui est Je sais plus, je crois qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent dans cette équipe. Enfin, vraiment, on est hyper dédiés à nos clients et à faire en sorte que Doctolib, ce soit une success story chez eux. Mais évidemment, on peut pas empêcher. Enfin, il y a toujours du churn et ça, c'est inévitable partout, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Il y en a un peu plus côté libéral, on va dire, que côté hôpitaux.
Oui, forcément, je m'en doute. Bon, en tout cas, super révolution. Et à la lumière de tes 3 années chez Doctolib, j'ai hâte que tu nous racontes un peu ton retour d'expérience. Et je commence par te demander, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ta success story préférée chez Doctolib?
Ouais, alors du coup, j'ai essayé de réfléchir à ça et en fait, je pense que le moment où je me suis sentie vraiment à l'aise et enfin vraiment hyper fière de bosser pour Doctolib et d'être account manager, c'est quand je suis arrivée en rendez-vous avec un service où je savais qu'ils n'étaient pas contents et qu'ils voulaient arrêter, ou en tout cas, enfin, globalement, peut-être couper beaucoup de choses sur Doctolib. Et en fait, après avoir passé un quart d'heure à écouter leur carnet de doléances, de choses qui n'allaient pas, ou potentiellement, si ça avait été au tout début de mon aventure chez Doctolib, où ça m'est arrivé d'avoir des partenaires au téléphone qui étaient vraiment virulents et moi de le prendre très à cœur, en fait, à ce rendez-vous, à un moment donné, j'ai réussi à vraiment switcher en termes de mindset et de me dire, mais en fait, je comprends, il y a plein de choses qui sont améliorées chez Doctolib, mais rappelez-vous que nous, on existe depuis 5 ans. Toutes nos évolutions, on vous les fait gratuitement et dès qu'on en fait, on en passe toutes les semaines en fait des évolutions. Et je prends tous les points que vous êtes en train de me donner. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a plein de choses qu'on peut déjà nous ensemble voir ensemble pour améliorer Doctolib là tel qu'il est et avec ce qu'on a à dispo. Et comme je vous disais, il y a encore plein de choses qui vont s'améliorer dans le futur. Et en fait, Doctolib, c'est un super service. Et oui, on n'est pas parfait, mais on est en train de s'améliorer. Et en fait, moi, je suis là pour vous, je suis là pour vous former, je suis là pour passer du temps. Et tout ça, on vous le facture pas en plus. Enfin, c'est vraiment, genre, on est à votre disposition pour faire en sorte que ce soit un succès chez vous. Et évidemment, je vais vous écouter et je vais faire en sorte que du coup, enfin, Doctolib, voilà, ce soit quelque chose qui vous apporte des patients qui sont qualifiés, ça vous fasse gagner du temps, ça fasse gagner du temps à vos secrétaires. Enfin voilà, notre objectif en fait c'est le même. Mais je comprends que vous soyez pas content, mais n'oubliez pas quand même que il y a 5 ans on n'existait pas. Maintenant, tout le service qu'on vous fournit, il est déjà à l'instant T vraiment qualitatif. Et en fait, je pense que le moment où j'ai réussi à switcher et de me dire de pas être en rendez-vous et de prendre à cœur et de le prendre personnellement et de me dire Doctolib c'est nul, je vais pas réussir à le convaincre, voilà, c'est d'avoir confiance en son produit et d'avoir confiance en soi aussi sur bah, ce qu'on peut faire, bien connaître les évolutions, bien connaître enfin tous les paramétrages qui sont possibles. Et là du coup bah, en fait tout de suite les clients enfin le chef de service m'a dit oui, c'est sûr, en effet, il y a plein de choses à améliorer. Bon, c'est top que vous le notiez. Et voilà. Et en fait, il a réussi à switcher aussi. Et on a réussi à se remettre dans un discours constructif sur, OK, bah, ça, j'ai compris, ça marche pas. Mais on peut améliorer ça. Enfin, on peut améliorer cet autre type de rendez-vous en mettant des consignes, en étant plus précis sur ce qu'on va communiquer aux patients. Et du coup, ça s'est transformé en un rendez-vous constructif. Et ça, je pense que c'est vraiment le moment où je me suis dit, OK, là, je maîtrise mon sujet. Là, je suis plus à l'aise en rendez-vous. Et je me laisse plus, entre guillemets, abattre par plein de retours négatifs que je peux avoir quand il y a beaucoup d'insatisfaction.
Et puis les professionnels de santé, eux, ils ont le nez dedans, j'ai envie de dire, tous les jours. Alors là, c'était intéressant que toi, tu puisses lui faire prendre du recul. Surtout que c'est un service qui est révolutionnaire, donc il faut bien qu'il en prenne conscience. Donc. Voilà,
Ouais,
c'est
non, mais bien sûr, mais en fait, enfin, c'est
intéressant.
sûr aussi qu'il faut avoir en tête que bah, c'est pas facile le métier de médecin, et surtout à l'hôpital, et surtout à l'hôpital public. Globalement, Doctolib, ils ont pas que ça à faire de passer du temps sur se poser des questions, sur comment on peut améliorer l'outil, etc. Donc en fait, déjà, c'est super quand ils t'accordent du temps pour t'expliquer ce qui va pas et que toi, du coup, enfin moi, en tout cas, j'ai du temps pour comprendre et leur proposer des solutions. Donc ça, c'est déjà top quand t'arrives à les rencontrer et qui, voilà, qui, c'est déjà plus, tu sens que c'est déjà un peu constructif parce que ils veulent avancer. Mais ouais, il faut, enfin, clairement, quand je vais en rendez-vous, je me mets toujours un peu à leur place en me disant que ils ont plein de choses à faire. L'administratif, c'est, enfin, en fait, nous, nos médecins, et c'est ça aussi l'objectif de Doctolib, c'est, en fait, les médecins, on veut qu'ils fassent que du temps médical.
C'est quoi la situation la plus compliquée à laquelle tu as dû faire face? Parce que comme tu dis, c'est une profession qui est assez mise à mal en ce moment. Ils sont en première ligne, mais d'un côté, ils sont aussi synonymes d'espoir. Enfin, comment est-ce que tu abordes les situations avec eux?
Situation la plus compliquée, je pense que ça a été pendant la période Covid. En fait, on a dû tous chez Doctolib, entre guillemets, aider l'équipe, mettre la main à la pâte pour aider l'équipe support pour prendre les appels des médecins qui s'installaient sur la téléconsultation. En gros, avant le Covid, il y avait, je crois, 1500 médecins qui utilisaient la téléconsultation et en un mois de temps, il y en a eu 30 000 qui se sont onboardés sur le sujet. Et du coup, il a fallu qu'on se mette tous à prendre des appels pour les aider, pour répondre à leurs questions, parce qu'en fait, ils s'onboardaient tout seuls sur l'outil. Et tous les médecins ne sont pas toujours technophiles. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez Doctolib. C'est qu'il faut être très patient dans la formation et dans le management du changement sur la partie digitale. Mais du coup, ça a été hyper compliqué, en fait, de rentrer dans les flux, d'avoir des médecins au téléphone tout le temps qui sont hyper stressés, qui doivent s'habituer, enfin en fait qui devaient évoluer par rapport à cette crise. Ils avaient plein de choses qui leur arrivaient tous les jours, de changements de process de par le gouvernement, l'ARS, etc. Donc ils étaient hyper stressés, ils prenaient tout ça en pleine tronche, on va dire. Ensuite, ils devaient s'habituer à un nouvel outil. Pas facile parce que pour beaucoup justement c'est pas toujours simple de se mettre à la nouvelle technologie et puis ben là en fait on leur dit ben non on est désolé on peut pas vous former, il y a tellement de gens là, tellement de médecins qui ont besoin que du coup faut que vous preniez le temps de le faire vous-même et moi je suis là juste pour répondre à vos questions si vous bloquez. Et c'est vrai que ça a été une période pas facile justement parce que ben à chaque fois quand on avait des médecins au téléphone qui étaient stressés, qui en pouvaient plus, faut être aussi capable de prendre du recul et d'être là pour les aider et c'est d'être à leur disposition pour les faire passer ce moment où globalement c'est compliqué, ils devaient absolument s'adapter quoi.
Et comment, selon toi, va évoluer le beau métier de Key Account Manager dans les prochaines années?
Je pense que en fait les données vont beaucoup nous aider. Enfin, je pense qu'on va bosser de plus en plus sur des produits digitaux et du coup grâce à la data on peut avoir plein d'infos sur les clients qui utilisent pas bien l'outil, du coup identifier des potentiels churn plus tard. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir nous permettre, c'est déjà le cas, mais à mon avis ça va pouvoir aller bien plus loin sur identifier via l'utilisation de l'outil comment on peut améliorer les choses et comment on peut aider nos clients. Et voilà, je pense que la data va pouvoir être notre meilleure amie.
J'ai une petite question bonus qui me vient à l'esprit. Comment, dans un contexte aussi difficile, au sens large, je parle, comment est-ce que tu peux être agressif commercialement parlant? C'est-à-dire que, est-ce que même toi, en tant que Key Account Manager, tu te dis, bon, je suis prête, entre guillemets, à m'asseoir sur mes KPI pour ne pas trop bousculer les médecins. Enfin, je veux dire, tu vas pas frapper un homme à terre, là, tu sais qu'ils sont en situation hyper délicate. Quelle est ta posture, toi, vis-à-vis de tes objectifs commerciaux, finalement?
Ouais, c'est une bonne question. Enfin, c'est une vraie question qu'on s'est posée, évidemment. Enfin, en gros, quand il y a eu la crise qui est arrivée et que du coup tous les hôpitaux ont fermé et que du coup il y avait le confinement, donc ils ont fermé les consultations. En fait, on s'est pas posé la question. Quand il y a des hôpitaux qui nous ont dit, faut que vous coupiez Doctolib parce que là on n'a pas le temps, en fait, de prévenir tous nos patients que les rendez-vous sont annulés, etc. Enfin, en fait, on s'est pas posé la question. Alors que évidemment, moi, mon KPI, c'est d'avoir toujours plus d'agendas qui sont ouvert sur Doctolib. Mais en fait, bon, en l'occurrence, là, je pense qu'on était dans une situation de crise telle que c'était pas la question à se poser, hein, puisque, enfin, comme tu disais, la direction de la boîte était de rendre gratuite la téléconsultation. Enfin, voilà, on ménage pas nos efforts pour aider, évidemment, le corps professionnel soignant. Donc en fait, on s'est adapté en étant moins pushy, moins attaquant, mais tout en ayant en tête que ben c'est un service qui peut continuer à avoir du sens et être efficace même dans cette période.
Je pense que c'est un pivot qui était non voulu, mais mine de rien, c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'une marque est forte et que le produit peut répondre en fait aux urgences, quoi. Bon, eh ben, très très passionnant tout ça. Je pense que ce secteur médical, c'est toujours touchy, mais être account manager dans ce milieu, c'est faut vraiment le prendre avec des pincettes, sans mauvais jeu de mots.
Ouais, mais après, c'est un super secteur. Et enfin, en fait, il y a tellement de choses à faire dans la modernisation, dans la digitalisation de l'hôpital que, en fait, c'est passionnant. Même si je pense qu'en fait, on en est encore au début, donc faut s'armer de patience, clairement. Quand je vais en rendez-vous sur le terrain, c'est toujours hyper intéressant de voir comment ils s'organisent, de voir que c'est encore parfois assez vieux jeu, les organisations dans les services. Donc, ouais, y a plein, plein de choses à faire. C'est un vrai secteur passionnant, je trouve.
Bon, bah, j'ai hâte de savoir quel titre de livre, de film ou de chanson tu as choisi pour décrire ton quotidien.
Écoute, j'ai choisi le film Hippocrate parce que je trouve que, enfin, après, du coup, le titre est parlant en soi, mais c'est surtout le film que j'avais beaucoup aimé et que je trouvais très réaliste sur la façon dont ça se passe dans les hôpitaux publics, puisque ça se passait dans un hôpital de la PHP, je crois. Et ça donne une vraie représentation des difficultés du quotidien des médecins à l'hôpital et du coup. Voilà, ça te permet aussi, ça m'a permis aussi de, je l'avais vu, je crois, avant d'être à la PHP, et du coup, justement, de pas arriver avec ses gros sabots, dire on est Doctolib, nous c'est trop bien et tout, et en fait, c'est d'abord comprendre que, déjà, il y a plein de choses qui sont souvent dysfonctionnelles dans les hôpitaux, donc Doctolib, c'est juste une pierre à l'édifice qui va s'entrebriquer avec plein d'autres choses, et donc voilà, il faut pas non plus y aller en tant que grand messie, Doctolib, c'est la super start-up à la mode. Non, c'est en fait, je viens avec une petite solution sur toutes les choses qu'on peut améliorer à l'hôpital.
Bah, merci à toi, Julie. En tout cas, c'était super chouette de venir au micro de Amcamram. J'espère que cette première expérience t'a plu.
Ouais, bah écoute, j'espère que ça va, j'ai pas parlé trop vite. Mais en tout cas, c'était top de pouvoir parler de mon expérience et merci du coup de toutes tes questions qui étaient très intéressantes.
Top. Et ben, je te dis bonne continuation, bon courage.
Merci Darina.
Ciao.
Ciao.